le micro fonctionne?
Voilà, c'est bon? Ah oui. Bon. Alors, merci beaucoup aux organisateurs de ce colloque de m'avoir invité. Ce que je vais faire avec vous très brièvement, bon, le contexte est le suivant. Le multiculturalisme canadien, et surtout au Québec, est dans une période très intéressante, une période de crise, une période en tout cas de débat très actif. Alors, je voudrais dresser avec vous le portrait, d'abord très général, de la situation du multiculturalisme comme politique officielle, tant au Québec, au Canada de manière générale qu'au Québec, et ensuite essayer de tirer certaines leçons de la crise que nous sommes en train de vivre, leçons qui n'ont peut-être d'incidence que pour le Canada, mais peut-être qu'elle aura également des implications pour ce qui se passe en France. Ce sera à vous d'en décider. Alors, je vais commencer avec un certain nombre de faits, tout simplement pour une mise à niveau, pour que l'on sache généralement de quoi l'on parle. Alors, le Canada est une société officiellement multiculturelle, c'est-à-dire que le multiculturalisme fait partie de son ADN légal depuis 1970. Et, on a tendance maintenant à voir le multiculturalisme canadien comme faisant partie de sa destinée historique, mais il est intéressant de voir que quand le multiculturalisme émerge au Canada, c'est pour des raisons qui sont extrêmement contingentes. Il y avait eu, à la fin des années 60, une commission, on est très fort pour les commissions au Canada, qui s'appelait la commission Laurando-Dunton, qui cherchait à étudier les structures qui permettraient au bilinguisme et au biculturalisme, donc anglais-français, de se maintenir de manière plus stable, devant la peur des Québécois francophones d'une éventuelle assimilation vers l'anglais en Amérique du Nord. On avait eu une commission qui avait eu énormément d'influence, qui avait tenté de voir comment on pourrait renforcer les structures qui pérenniseraient le bilinguisme et le biculturalisme. Il y avait quelques familles, essentiellement ça tenait à ça, quelques familles extrêmement influentes dans les provinces des prairies, donc Saskatchewan, Manitoba, des endroits très peu peuplés, qui avaient été peuplés vers le début du siècle par des Ukrainiens, par des gens de cette partie du monde qui s'étaient établis et qui étaient devenus des familles très influentes, et qui avaient peur que, devant l'emphase placée sur le biculturalisme et le bilinguisme, leur spécificité d'arrivants relativement récents n'appartenant ni à l'un ni à l'autre de ces groupes serait ignorée. Le premier ministre de l'époque, Pierre Elliott Trudeau, qui voulait que les leçons de la commission Laurando-Dunton passent, s'était dit, bon, écoutez, il faut qu'on leur lance quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose. On va faire un énoncé, une déclaration, comme quoi le Canada, en plus d'être binational et biculturel, est une société multiculturelle. Alors, 1970, le premier énoncé, la première déclaration sur le multiculturalisme au Canada. Bon, évidemment, cette idée, on lance des idées en politique et on n'en est pas toujours les maîtres. Elles ont une vie qui devient en quelque sorte autonome. Et cette idée du multiculturalisme a énormément pris dans la fibre politique canadienne, de telle sorte que la première loi à plein titre sur le multiculturalisme, elle a été votée 17 ans plus tard, en 1987, elle met sur pied tout un appareil d'État sur le multiculturalisme. On disait hier que la France était peut-être le seul pays au monde où il y avait un ministère de l'identité, c'est ça ? Mais il y a au Canada un ministère du multiculturalisme. Alors, il est très intéressant de voir un peu la vie de ce ministère. Ce n'est pas un ministère, c'est ce qu'on appelle au Canada un secrétariat d'État. Donc, c'est un rang en dessous du ministère. Donc, la personne responsable de ce quasi-ministère ne fait pas partie, par exemple, du cabinet des ministres. Mais c'est quand même une structure, c'est quand même une bureaucratie. Et elle a toujours été associée à différentes autres bureaucraties. Donc, pendant quelques années, ça a été le secrétariat d'État pour le multiculturalisme et la condition de la femme. Vous me demanderez, qu'est-ce que le multiculturalisme et la condition de la femme ? Bon, ça a été ça pendant quelques années. Maintenant, c'est patrimoine et multiculturalisme. Donc, on peut voir un peu d'un passage à l'autre comment voir le multiculturalisme comme faisant partie du patrimoine versus voir le multiculturalisme comme étant d'une manière ou d'une autre lié à la condition de la femme. Ça infléchit le concept de manière un peu différente. Mais enfin, ce sont des questions sur lesquelles je ne m'étendrai pas. L'autre événement important, 1982, j'aurais dû le mentionner avant, la Constitution canadienne, donc notre nouvelle Constitution qui vient de fêter ses 25 ans, contient un article dans sa Charte des droits et libertés, l'article 25, qui une sorte de clause interprétative pour la Cour suprême, disant que le Canada est une société multiculturelle et que les lois, que les jugements de la Cour devraient, d'une manière ou d'une autre, c'est très imprécis, tenir compte de ce fait dans les jugements, évidemment, qui sont pertinents aux questions du multiculturalisme. Donc, il y a une infrastructure légale, juridique, qui est en place. Ça, c'est un peu pour le côté institutionnel. Pour le côté, disons, factuel, les nombres. Bon, le Canada, comme vous le savez peut-être, est une société qui est géographiquement très grande, mais du point de vue de la population assez petite, 30 millions d'habitants, 31-32 à peu près maintenant, qui accueille 250 000 immigrants par an. 250 000 immigrants par an qui représentent 100% de la croissance démographique du pays. Donc, la croissance démographique du pays dépend entièrement de l'immigration, le taux de natalité étant très bas, et les immigrants, au bout d'une génération, rejoignant le taux de natalité, disons, des gens installés depuis plus longtemps. Bon, ils sont surtout concentrés dans trois villes, qui sont Montréal, Vancouver et Toronto. Vancouver et Toronto, beaucoup plus que Montréal. Toronto, on dit de Toronto que d'ici 2017, donc dans 10 ans, 50% des habitants de Toronto seront des gens qui seront nés ailleurs qu'au Canada. Donc vraiment une ville d'immigration. Vancouver également une ville d'immigration. Montréal un peu en retard pour des raisons démographiques sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Mais 80% de l'immigration au Canada se concentre dans ces trois villes. Alors, très important, et ce sera important pour ce que je développerai dans la partie moins factuelle, un peu plus diagnostique de la situation, l'immigration au Canada est une immigration extrêmement contrôlée. Hein. C'est une immigration sélective qui se fait sur un système de pointage assez compliqué où, essentiellement, l'argent que vous avez, vos qualifications professionnelles, votre compatibilité culturelle, et au Québec, c'est très important, le fait de pouvoir parler le français, compte pour beaucoup. Donc, c'est une immigration sélective et qui est devenue encore plus sélective depuis quelques années, puisque nous avons, au lendemain du 11 septembre, de manière fort mal avisée, à mon avis, signé un traité avec les États-Unis, un traité sur l'accès des réfugiés au territoire nord-américain, qui dit essentiellement la chose suivante: n'importe quel demandeur d'asile qui a mis les pieds dans un autre pays jugé sécuritaire par le Canada, les États-Unis étant évidemment ce pays, le pays, on ne parle évidemment pas de l'Australie, là, puisque géographiquement... Il faut bien voir les choses comme elles sont. Toute personne qui aurait mis les pieds dans un pays jugé sécuritaire ne pourrait pas demander l'asile, ne pourrait pas demander le statut de réfugié au Canada. Ce qui a fait que la part de l'immigration qui est due aux réfugiés a disparu presque du jour au lendemain à presque rien. La semaine dernière, dans un jugement qui a étonné tout le monde, qui en a réjoui beaucoup, dont moi, une cour supérieure en Ontario a jugé ce traité anticonstitutionnel, donc jugeant que les États-Unis n'étaient pas, pour une catégorie importante de demandeurs d'asile, un pays sécuritaire. On ne sait pas encore, le gouvernement va faire appel, il est possible donc que le Canada soit amené à accepter plus de réfugiés qu'auparavant, mais enfin, le contexte pour l'instant est celui-là. Immigration très sélective qui est faite sur un système de pointage, à peu près aucune immigration clandestine pour des raisons géographiques que vous pouvez assez rapidement comprendre quand vous regardez le Canada sur une carte du monde. Alors, un mot rapide sur le contexte un peu spécifique du Québec, la situation de l'immigration et du multiculturalisme au Québec. Bon, vous savez que le Québec est une société qui, depuis les années 70, a de fortes velléités autonomistes, pour ne pas dire souverainistes, et donc un rapport malaisé avec le reste du pays. Une relation malaisée notamment à la notion de multiculturalisme, pas à la pratique du multiculturalisme, parce que le Québec est devenu une société tout à fait multiculturelle où le multiculturalisme se vit au quotidien relativement bien, du moins dans les endroits où il y a du multiculturalisme, Montréal notamment, mais le concept de multiculturalisme est mal vu au Québec parce que perçu comme noyant la spécificité québécoise. Jusqu'à un certain point, c'est une analyse qui n'est pas sans fondement, puisque la politique avait été conçue très rapidement dans les années 70 dans le contexte donc de ce travail qui avait mené à renforcer le bilinguisme et le biculturalisme canadien. Donc officiellement au Québec, nous ne faisons pas dans le multiculturalisme, nous faisons dans l'interculturalisme. Vous me demanderez quelle est la différence, je vous dirai qu'il s'agit de deux mots différents, mais que les pratiques ne sont pas tellement. Alors, ce qui est important, c'est que le Québec a sa propre politique d'immigration. Le Québec accorde énormément de points, donc dans ce système de pointage, à la compétence linguistique. Le fait de pouvoir parler le français sans vous garantir l'accès au pays vous donne de fortes probabilités de pouvoir y accéder. Je crois que c'est 12 points sur 20 qui sont accordés au fait de pouvoir parler le français. Ou, alors là, un magnifique néologisme qui a été conçu par nos bureaucrates québécois, le français ou une langue francotrope. Une langue francotrope, c'est une langue qui vous donne facilement l'accès au français, donc une langue qui est voisine du français, l'italien, l'espagnol, les langues latines essentiellement. Ce qui fait que, pour dire les choses de manière courte, l'immigration au Québec est très fortement constituée de ressortissants de pays francophones, donc la France, mais également les pays de l'Afrique du Nord, le Vietnam, Haïti. Et depuis que cette notion de francotropie a été inventée, des pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine. Donc une très forte immigration venant de Honduras, du Salvador, Nicaragua, etc. Donc voilà un peu pour la situation de l'immigration. Alors, je vais très rapidement, mais bon, le temps me l'impose. Qu'est-ce qui a fait que nous vivons... Alors, le multiculturalisme, le Canada, c'est vrai, pendant plusieurs années, est perçu autour du monde comme étant un peu la terre sainte du multiculturalisme, comme étant l'endroit où on a réglé tous les problèmes, et comme étant le modèle que d'autres pays cherchent à imiter. Et étudiant un peu ces questions, j'ai fait littéralement le tour du monde allant dans des pays où les gens voulaient avoir la recette magique du Canada. Alors là, de toute évidence, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, il y a des problèmes. Et deux événements me semblent avoir précipité ce problème très rapidement. Il y a à peu près 2 ans en Ontario, l'Ontario est la province qui a la plus forte immigration, et notamment la plus forte immigration venant du monde musulman, très vastement conçu, donc du Pakistan notamment. C'est la plus forte communauté pakistanaise au Canada, mais des autres pays où l'islam est important. Et il y a des communautés musulmanes dans lesquelles, clandestinement, comme c'est le cas pour certaines communautés juives ultra-orthodoxes, le droit familial était géré par des tribunaux à peu près clandestins, décidant de causes reliées aux droits de la famille, divorce, partage de la propriété, sur la base de la charia. La pratique étant devenue suffisamment importante, dans le nombre, le gouvernement a demandé à son ancienne procureure générale, une femme qui s'appelle Marion Boyd, féministe extrêmement vocale au sein du gouvernement précédent, de préparer un rapport. Qu'est-ce qu'on doit faire à propos des tribunaux charia? Un peu à l'étonnement de tout le monde, Madame Boyd a écrit un rapport extrêmement intelligent, extrêmement fin, extrêmement rigoureux, dans lequel elle défendait essentiellement la situation suivante. Les tribunaux charia ne disparaîtront pas si le gouvernement de l'Ontario décide qu'ils ne devraient pas exister. Ils continueront à exister et des femmes continueront à vivre sous leur emprise. Des femmes qui sont souvent les plus vulnérables de la société, c'est-à-dire ne parlant ni l'anglais ni le français, n'ayant donc pas accès aux tribunaux institutionnels, elles seront en quelque sorte soumises de manière entière à ces tribunaux. Pourquoi ne pas essayer d'instituer une sorte de partnership, hein, entre le droit institutionnalisé canadien et les tribunaux de la charia, pour faire de sorte que ces tribunaux soient reconnus par le droit canadien, mais attention, sous certaines conditions, et notamment sous la condition de toujours être sujet aux droits et libertés qui sont inscrits dans la charte. Ça a suscité un tollé absolument incroyable, dans les médias, etc., de telle sorte que le Premier ministre de l'Ontario de l'époque, et encore actuel, un dimanche, sans véritable consultation, a décidé que ça suffisait, a dit à Marion Boyd « Merci beaucoup de votre rapport » et l'a essentiellement mis dans le plus profond tiroir de son bureau et a dit « Il n'y aura pas de reconnaissance des tribunaux charia en Ontario ». Mais ça a suscité donc une sorte de tollé qui a fait que tout d'un coup, on sentait qu'il y avait un peu péril en la demeure du côté de la province, donc la plus peuplée du Canada et la province où, avec la plus forte immigration. Au Québec, ce qui a vraiment suscité les événements qui ont culminé donc avec la création de la commission Taylor-Bouchard, qui a été évoquée il y a un instant, c'est une décision de la Cour suprême qui a été prise il y a 2 ans. Décision de la Cour suprême, une cause qui s'appelle Multani, bon le nom n'est pas important, qui portait sur un garçon sikh qui fréquentait une école publique dans la région de Montréal, donc cette fois-ci au Québec, portant un kirpan, donc un petit couteau cérémonial que certains sikhs voient comme représentant une obligation religieuse pour tous les mâles. Le kirpan a été vu par certains de ses petits copains. Il y a des parents qui se sont énervés. Un arrangement à l'amiable, un accommodement a été conçu par le conseil d'établissement et la famille, disant, écoutez, ça va, il peut venir à l'école avec son couteau, à condition qu'il soit difficile d'accès, c'est-à-dire qu'il soit dans une gaine, cousu, etc. Et dans ces conditions, on lui permettra de venir avec son couteau. Malheureusement, la commission scolaire a fait appel. La chose s'est rendue jusqu'en Cour suprême. La Cour suprême a reconduit le jugement initial, donc l'arrangement tout à fait improvisé qui avait été fait entre les parents et la famille a été jugé comme celui qui respectait le plus à la fois le droit à la liberté religieuse de la famille et les considérations de sécurité tout à fait légitimes des parents. Dans le reste du Canada, cette décision a été accueillie avec, malgré ce que je vous ai dit avec la charia, comme il y a beaucoup plus de sikhs dans le reste du Canada qu'au Québec, il y a beaucoup de sikhs, de garçons sikhs qui portent le couteau. De toute évidence, ça n'avait jamais causé de problème particulier. Il y a plus d'enfants qui se font du mal les uns aux autres avec des bâtons de hockey ou de baseball qu'avec des couteaux. Le reste du Canada a accueilli la décision en ne réagissant pas trop. Au Canada, ça a été un tollé considérable. Les Anglo-Canadiens sont tombés sur la tête, ils sont devenus complètement fous. Cette doctrine du multiculturalisme est allée trop loin. S'en étant suivi pendant à peu près un an, une sorte de foire d'empoigne médiatique où on avait l'impression que tous les journaux, toutes les chaînes de télévision avaient explicitement demandé à un de leurs journalistes, écoutez, à toutes les semaines, il faut que vous me rameniez un juif, un musulman, un sikh, quelque chose, quelqu'un qui a obtenu quelque chose, un privilège qu'il n'aurait pas dû obtenir du fait de sa religion. De toute évidence, les gens en veulent, les gens en consomment. Et il y a eu pendant un an, donc, une montée en épingle de cas anecdotiques qui ont parfois été presque inventés de toutes pièces pour les fins du marché, hein, en quelque sorte, qui ont fait qu'au Québec, pendant un an, on ne parlait que de ça. Aux abords d'une élection, le gouvernement de l'époque, qui voyait sa réélection en mise en danger par un parti qui représente un peu notre Front National, version canadienne, donc soft, qui avait été donné pour mort quelques mois auparavant, avait fait de cette histoire du multiculturalisme son cheval de bataille, voyait ses scores grimper dans les sondages. Le gouvernement a dit, ça suffit, on va perdre nos élections sur cette histoire, on va nommer une commission. Pendant les élections, la campagne, on pourra dire, écoutez, les accommodements raisonnables, comme nous appelons donc toutes ces questions, on y voit, on a nommé une commission, on n'en parle plus. Et il a nommé une commission donc, à laquelle je participe en tant que membre du comité conseil, qui est en fait présidée par deux de nos plus éminents intellectuels, Charles Taylor, le philosophe, et Gérard Bouchard, le sociologue. Donc, chargé de faire des recommandations au Québec sur les accommodements raisonnables, et alors organise une vaste série de consultations à travers la province, y compris, et à mon avis de manière fort mal avisée, je peux le dire en France, j'espère qu'il n'y a pas de journalistes québécois dans la salle, de manière fort mal avisée, a décidé d'organiser une vaste série de consultations publiques, commençant dans les régions, donc dans les régions où habitent à peu près 0,1% des non-québécois de souche du Québec, où on a entendu pendant 2 mois, semaine après semaine, pas que des choses méchantes, il y avait des gens avec des... Mais, entre autres, des choses extrêmement méchantes à propos des immigrants qui étaient basées essentiellement sur une vision complètement fantasmatique, disons cauchemardesque, de ce qu'était la vie dans une société multiculturelle, mais absolument pas basée sur une acquaintance de première main avec le multiculturalisme, puisque ce sont des régions dans lesquelles le multiculturalisme n'existe pas. Pendant plusieurs semaines, on a entendu donc ces choses sortant des régions. Les consultations se terminent cette semaine à Montréal et la commission doit déposer son rapport dans 3 mois. Elle le fera dans un contexte extrêmement chaud, extrêmement malsain à mon avis. Je dirais que l'effet total de cette histoire a été de faire de sorte que tous les partis politiques se soient déplacés sensiblement vers la droite en réponse à ce qu'ils voient comme étant une demande venant de la population. Partout sauf à Montréal, mais étant donné la manière, et là je rentre vraiment dans la cuisine électorale canadienne, à cause de la distribution des sièges dans le pays, il faut vraiment que ces gens des régions qui ont ces visions apeurées du multiculturalisme votent pour votre parti, sinon vous ne faites pas élire. Alors, j'en arrive maintenant à la partie pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, donc dans cette terre qui, soi-disant, avait tout compris et tout inventé sur le multiculturalisme. Pourquoi en est-on arrivé là? Il me semble qu'on en est arrivé là pour essentiellement suivante. J'ai déjà donné certains éléments de réponse dans ma présentation factuelle. Je crois que le succès du multiculturalisme au Canada tient davantage... Alors là, je vais parler lentement parce que c'est la chose donc, que je voudrais que vous reteniez. Le succès du multiculturalisme au Canada tient davantage à des circonstances favorables qu'au génie législatif. Les circonstances favorables, je les ai déjà essentiellement mentionnées. Notre immigration est sélective. C'est-à-dire que, pour dire les choses de manière courte, nous choisissons des gens qui appartiennent ou qui peuvent aspirer à court terme à appartenir à la classe moyenne. Nous faisons venir des ingénieurs, des instituteurs ou des gens qui, en tout cas, aucune immigration clandestine, ou presque pas. Comme je l'ai dit, presque pas de réfugiés. C'est une politique d'immigration qui favorise l'intégration à relativement court terme, puisque nous faisons venir des gens qui, à relativement court terme, peuvent s'intégrer au marché du travail sans trop de heurts. Deuxièmement, l'absence de tout... Alors, je suis en France, je n'ai pas besoin de m'étendre sur cette question. Il n'y a aucune relation historique problématique avec les gens que nous faisons venir. Nous faisons venir des gens un peu de partout au monde. Le Canada fait partie du Nouveau Monde. Nous n'avons aucune relation. Tout le contexte colonial et postcolonial est absent. Donc les gens qui viennent au Nouveau Monde justement pour échapper dans leur perception, notamment à des pays où le lourd héritage du colonialisme est perçu comme bloquant leur possibilité, leurs opportunités. Si vous voulez avoir une comparaison qui est plus apte, il faudrait regarder la relation du Canada à ses populations autochtones, où là, il y a véritablement une situation qui est encore coloniale ou tout juste postcoloniale. Et on verra très vite, en regardant cette situation complètement lamentable, que le Canada n'a rien à apprendre à qui que ce soit pour ce qui est de la gestion des situations coloniales, postcoloniales. Donc, l'immigration jouit au moins de ces deux facteurs contingents extrêmement favorables, qui sont la possibilité donnée par la géographie de pouvoir exercer une politique d'immigration tout à fait sélective, et deuxièmement, la contingence historique qui consiste à ce que nous n'ayons aucun héritage postcolonial à gérer. Ce qui fait de sorte que, pendant longtemps, l'immigration se faisait de manière relativement harmonieuse. Quand on parle aux gens dans l'appareil du multiculturalisme au Canada, ils vous disent en rigolant qu'à peu près 50% de leurs tâches est consacrée à lutter contre la discrimination raciale. Alors là, c'est sérieux, parce que, bon, effectivement, mais c'est pas une politique particulièrement multiculturelle. Même les sociétés, peut-être même surtout les sociétés qui ne se voient pas comme étant multiculturelles, ont également dans leur mandat de démocratie libérale de lutter contre le racisme. Et 50% de leur temps est consacré à ce qu'ils appellent, alors c'est un acronyme anglais qu'ils utilisent, les 3 F, fun, food and fashion. Donc, qu'est-ce que c'est que le multiculturalisme au Canada? C'est essentiellement, pour caricaturer un peu, donner de l'argent à des organismes communautaires, de gens qui par ailleurs s'intègrent extrêmement bien au marché du travail et donc à toutes les autres institutions, parce qu'à mon avis, tout commence par le travail. Pour leur donner quelques argent pour qu'ils puissent avoir des organisations communautaires qui, une fois ou deux par année, organisent des fêtes, des célébrations dans lesquelles ils mettent en évidence leur manière de s'amuser, donc fun, leurs mets traditionnels, donc food, et leurs vêtements cérémoniaux, donc fashion. Alors voilà comment l'appareil du multiculturalisme fonctionne. Tout cela n'a donc pas besoin d'une théorisation particulièrement poussée sur le multiculturalisme. Les circonstances, le hasard fait que tout se passe bien, mais fait également qu'une fois une crise ou une situation difficile à gérer et appelant une réflexion plus soutenue émergent, celle de la charia en Ontario, celle de les différentes situations qui ont été évoquées au Québec et qui ont donné lieu à cette crise, on s'est trouvé comme désemparés parce que n'ayant pas véritablement un ensemble de principes vraiment bien conçus sur lesquels asseoir une réflexion sur ces cas véritablement plus difficiles. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la mesure où il y a une réflexion sur le multiculturalisme au Canada, elle s'est faite complètement en marge institutionnellement de l'appareil légal et institutionnel que j'ai décrit sur le multiculturalisme. Si vous regardez par exemple une décision comme Multani, donc la décision sur le Kirpan, les avocats de la famille et la Cour suprême dans sa décision finale ne mentionnent pas une seule fois l'article 25 comme faisant partie de l'environnement conceptuel et intellectuel justifiant la décision. Le multiculturalisme se gère à partir de 2 principes, qui sont des principes constitutionnels, mais également des principes de philosophie politique, qui sont d'une part le principe d'égalité, peut-être plus que 2, le principe d'égalité enchâssé dans la charte, le principe de liberté religieuse, et la section 1, alors je m'excuse de rentrer dans des détails de droit constitutionnel canadien, mais c'est un peu important pour bien comprendre ce qui se passe. L'article 1 de notre Constitution, qui dit essentiellement la chose suivante, les droits énumérés ci-bas sont non absolus, mais sujets à des limitations qui sont justifiables dans le cadre d'une société démocratique et libérale. C'est-à-dire que les droits, contrairement à la Constitution américaine, qui ne prévoit absolument aucune restriction constitutionnelle aux droits à la liberté d'expression, à la liberté religieuse, etc., ce que dit la Constitution canadienne, c'est qu'il faut toujours mettre en équilibre des considérations de bien social et des considérations de droit individuel. Par contre, le fardeau de la preuve incombe toujours au gouvernement qui voudrait limiter un droit, et il doit en faire la démonstration, et la démonstration doit être faite de manière très rigoureuse. Mais il y a toujours cet équilibre à maintenir. Et alors, dans la mesure où il y a une réflexion indépendante qui s'est faite sur le multiculturalisme au Canada, elle s'est faite non pas en tant que théorie du multiculturalisme, mais en tant que théorie essentiellement du droit individuel. Comment, devant des situations comme celle que j'ai mentionnée, celle du garçon avec son kirpan, on pourrait en évoquer des tas d'autres, et si vous voulez, je peux en parler pendant la période de discussion, comment mettre en équilibre des considérations d'égalité et de droit individuel et des considérations de bien social, comme par exemple la sécurité était évoquée comme le bien social dont il fallait tenir compte dans la décision sur le kirpan. Donc, et la notion d'accommodement raisonnable elle-même est une doctrine qui est issue du droit canadien basée sur la doctrine de l'égalité. Ce que l'accommodement raisonnable est vu par le tribunal comme étant une obligation légale, essentiellement, le raisonnement suivant est tenu par le tribunal, par la Cour suprême, l'égalité ne peut pas se décliner par l'identité de traitement. Mettre des escaliers devant un bâtiment et dire « vous avez tous également accès aux bâtiments, personnes qui peuvent marcher, personnes en chaise roulante », cela ne respecte pas en fait le principe d'égalité, puisque le principe d'égalité exige une prise en compte des conditions des individus. Alors c'est parfaitement accepté et toléré et géré de manière tout à fait facile pour des considérations de handicap physique, de grossesse, d'âge, etc. Mais la Cour va étendre cette doctrine d'accommodement raisonnable à des considérations culturelles et impose donc aux employeurs, impose aux institutions publiques l'obligation d'accommoder, dans une certaine mesure, les différences culturelles. Une décision de la Cour suprême qui est très importante. À l'époque, maintenant c'est fini, comme j'imagine en France, tous les magasins sont ouverts 7 jours par semaine, mais il y avait une époque où les magasins fermaient le dimanche. Une adventiste du septième jour, pour qui la journée de culte est le samedi, fait une plainte, demande son employeur, exige qu'elle travaille le samedi. Elle fait une plainte qui va jusqu'à la Cour suprême, et la Cour suprême, dans une décision donc qui est en quelque sorte à l'origine de la doctrine des accommodements raisonnables, va dire que dans la mesure où ce n'est pas trop coûteux, donc dans la mesure où c'est raisonnable, il faut que l'employeur accommode raisonnablement donc son employé pour qu'elle puisse célébrer son jour de culte un jour différent. Deux, trois minutes pour... Alors, donc, nous avons... je vous ai énoncé un peu la situation factuelle, je vous ai donné un peu le contexte légal, et ce que j'ai essayé de suggérer, c'est que la gestion du multiculturalisme a été un succès au Canada pour des raisons qui tiennent presque plus du hasard que du génie législatif, et que dans la mesure où il y a une réflexion, elle s'est faite sur la base de considérations légales qui n'ont rien à voir avec le multiculturalisme, mais plutôt avec des considérations jurisprudentielles relatives au droit individuel. Alors, je voudrais conclure en évoquant quand même... la commission Taylor-Bouchard, dont je fais partie, va... Alors, ce qu'il y a de nouveau sur la scène, et je prendrai deux minutes pour conclure, c'est l'émergence la religion comme étant, parmi les considérations culturelles qui comptent dans les demandes d'accommodement qui sont faites, qui commencent à prendre plus de place. Et je crois qu'une des choses... Alors, s'il est possible maintenant d'entamer une réflexion philosophiquement sérieuse sur la manière de gérer les accommodements raisonnables, notamment pour des motifs religieux, je crois que la commission Bouchard-Taylor serait bien avisée d'entamer une réflexion sur la laïcité. Alors le Canada n'est, contrairement à la France qui a sa loi sur la laïcité depuis 1905, comme vous le savez, je suis en France, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, le Canada n'est pas un pays laïque. Jusqu'à l'an prochain, jusqu'à l'an prochain, le Québec aura toujours des cours d'éducation religieuse confessionnelle dans ses écoles publiques. Ça ne se terminera qu'en 2008. Et dans d'autres provinces, ça continue toujours. Et bon, le Canada n'est pas un pays laïque, ce n'est pas une théocratie, mais ce n'est pas un pays laïque. Le discours de la laïcité ne fait pas partie, comme ça le fait en France, de notre ADN. La notion de laïcité est maintenant utilisée, notamment dans un contexte d'anti-islamisme, islamophobe. Tout d'un coup, on découvre qu'on est laïque au Québec parce qu'essentiellement, on n'aime pas trop les femmes voilées, parce qu'essentiellement, on n'aime pas trop... La laïcité totalement incomprise est devenue une manière de dire de manière politiquement correcte des choses méchantes à l'endroit notamment de la communauté musulmane. Et je crois que cela trahit une incompréhension totale de la notion de laïcité, et je crois qu'une réflexion sur le type de laïcité que nous voulons avoir au Québec est de mise. Et je terminerai là-dessus. Je crois que la laïcité que nous devrions privilégier, et je vais terminer peut-être sur quelque chose qui va être un peu provocateur dans un contexte français, devrait être autre que celui qui est pratiqué en France. Il y a l'idée qui circule beaucoup dont j'ai été en partie le géniteur, donc c'est peut-être un peu pour ça que je défends l'idée, d'une laïcité ouverte. Une laïcité ouverte qui essentiellement fait... essentiellement, la laïcité pour moi, c'est quelque chose comme le principe de neutralité. Sur les affaires de religion, sur des affaires de différence culturelle, l'État doit être scrupuleusement neutre. On peut voir cette exigence de deux manières. La manière française, ou qu'on caricature souvent comme étant la manière française, c'est que c'est un principe catégorique. Quand vous occupez une position officielle, dans un espace officiel, pas de croix, pas de kippa, pas de voile, pas de quoi que ce soit. Bon. Donc, la neutralité comme un principe catégoriel. Moi, je verrais plutôt une laïcité ouverte qui pousserait pour une neutralité que je vois comme étant un effet institutionnel. Alors, on peut se poser la question suivante. Qu'est-ce qui produit l'effet de neutralité le plus important? Une société dans laquelle la neutralité de principe, telle que je viens de la décrire, est pratiquée, mais qui exclut potentiellement de postes officiels des individus dont les obligations religieuses, les forces à porter le voile, la kippa, la croix ou ce que vous voulez, ou une société qui dit, écoutez, dans la mesure où vous faites votre travail de manière neutre, dans la mesure où rien de ce que vous faites ne trahit une obédience particulière, portez ce que vous voulez, ce qui fait que, par exemple, notre fonction publique pourrait être plus représentative de ce qu'est véritablement la société que ne le serait une société laïque sur le mode plus principiel qui bloquerait à l'entrée des individus dont les obligations religieuses, encore une fois, les obligeraient à porter tel ou tel signe religieux. Je crois que pour des raisons aussi bien philosophiques que pratiques, il est peut-être de mise d'étudier au moins la possibilité d'instituer une forme de laïcité donc plus ouverte telle que celle que je viens de décrire au Québec. Et ce serait déjà un premier pas très important pour commencer à réfléchir enfin, après 50 ans, de manière intelligente et cohérente au multiculturalisme au Canada. Je vous remercie.